Alors, pour parler par exemple de la Croatie, on assiste à un certain nombre de manifestations à l'intérieur du pays sur lesquelles on doit effectivement s'interroger. On sait que, par exemple, dans cette tentative de diviser les anciennes populations de l'espace yougoslave, on assiste à des déplacements de populations, y compris dans les zones qui ne sont plus ou qui n'ont pas été affectées par la guerre. Alors, ça se passe dans les grandes villes, ça se passe dans certaines régions de Croatie, et ce qu'on sait maintenant, ça s'est passé d'abord à Zagreb, et puis maintenant ça se passe à Split, mais aussi ailleurs, c'est que, par exemple, il y a un certain nombre de citoyens qui se font expulser de leurs appartements parce qu'ils sont serbes, ou alors parce que ce sont des femmes croates qui ont épousé des serbes. Et alors, évidemment, c'est des situations qui sont extrêmement graves parce que elles concernent, bien évidemment, une minorité de gens, mais dans tous les pays totalitaires ou autoritaires, ce sont les minorités qui ont été prises pour cible pour parvenir à un certain projet politique. Et si on veut un peu illustrer cette question d'expulsion d'appartements, il faut garder à l'esprit ce qui était la particularité de l'ancienne Yougoslavie, à savoir que, en fait, l'armée mettait à disposition des officiers des appartements donc, qui lui appartenaient en tant que tels, c'est-à-dire qui appartenaient au ministère de la Défense, et qu'on mettait à disposition des officiers qu'ils pouvaient utiliser ou même transmettre à leur descendance par la suite. Et maintenant, sous prétexte que la nouvelle armée croate a besoin d'appartements, on est en train de réquisitionner un certain nombre d'appartements. Et justement, on réquisitionne les appartements qui sont habités par des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, à savoir des femmes seules, c'est-à-dire des veuves, des femmes divorcées ou des femmes dont le mari est parti à la guerre ou est parti en Serbie au début des hostilités. Et que ces femmes reçoivent la visite de l'armée, de militaires. C'est un groupe de 7 à 10 personnes, ce sont des militaires. Parfois, nous dit-on, ce sont aussi des hommes qui ont les uniformes des paramilitaires de l'extrême droite. On vient, on fracasse la porte et on laisse aux gens entre 5 et 15 minutes pour quitter l'appartement. Il y a eu en 2 ans à Split à peu près 450 personnes qui ont été comme ça chassées de leur appartement. Donc ils ne peuvent rien emporter. Parfois on casse des choses quand les militaires arrivent dans les appartements. En tout cas, les gens quittent ces appartements sans pouvoir emporter leurs biens. Donc en fait, c'est une partie de leur vie qu'ils laissent sur place. Et que se passe-t-il par la suite ? Eh bien, ces gens sont reçus, sont accueillis par des voisins, par un membre de la famille, mais ça ne peut évidemment être que temporaire. Or, ces gens n'ont plus les moyens pour louer ou acheter un appartement parce qu'ils ont tout perdu. Alors, ces gens, évidemment, au moment où l'armée arrive dans leur appartement, que font-ils ? Eh bien, ils téléphonent à la police, que ce soit la police civile ou militaire. La police arrive, elle prend l'identité du locataire de l'appartement, mais évidemment pas de l'intrus, et il n'y a donc aucune conséquence. Ou alors les policiers prennent fait et cause pour les militaires qui sont en train de chasser les locataires. Ces gens-là aussi ont déposé plainte, et il se trouve qu'il n'y a aucune suite qui a été donnée à ces plaintes déposées. Donc il se trouve maintenant aussi des gens, je dirais des opposants au régime, parce que je crois que c'est très important de mentionner le fait qu'il y a des gens qui s'opposent à ces régimes. On a notamment entendu parler d'un professeur d'université à Split qui, lui, a donné une interview dans un journal à la fin de l'année passée dans lequel il mentionnait précisément ces agissements des autorités, le fait qu'il y a des dynamitages de maisons, le fait justement qu'il y a des expulsions d'appartements, le fait qu'il y a des explosions, etc. Et il remettait en fait en question, ce professeur, le non-agissement du gouvernement central, disant que si on ne pouvait pas vraiment démontrer qui était à l'origine de tous ces agissements, toujours était-il de la responsabilité du gouvernement croate de prendre des mesures et de protéger les citoyens. Suite à cette interview, cet enseignant a donc été inculpé par le vice-président du gouvernement. Il a été inculpé pour diffamation et calomnie. Et je pense que vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y a eu ouverture du procès il y a quelques jours à Split. Alors, évidemment, ça n'incite pas les gens à s'opposer, n'est-ce pas, à ce type d'attitude ou à ce type de problème en Croatie. Et c'est bien ça qui inquiète les gens. Et je trouve finalement grave que nous, ici en Occident, qui nous sentons en quelque restent en quelque, d'une certaine façon, les dépositaires des idées démocratiques, qu'on ne soit pas plus attentif à ce qui se passe en Croatie ou en Serbie, et que surtout on ne soit pas prêt, y compris de la part des gouvernements occidentaux, à appuyer ces opposants et cette résistance. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, ils ont impérativement besoin d'un soutien de l'Occident, parce que tout seul, pour eux, c'est extrêmement dangereux, bien sûr, de développer des actions. Et c'est, je crois, aussi difficile pour une raison qu'on oublie toujours un petit peu chez nous, c'est que finalement, même si la Yougoslavie d'avant 1990 était un pays beaucoup plus ouvert que les autres pays, c'est une société qui ne connaissait pas de société civile. J'entends, les gens n'ont pas de pratique démocratique. Donc il est aussi beaucoup plus difficile pour ces gens tout à coup de commencer à s'organiser, de développer des réseaux, de prendre des initiatives. C'est beaucoup plus difficile que pour nous ici chez nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On ne peut pas créer une société démocratique comme ça rapidement. Elle n'a pas existé et je ne crois pas qu'elle va se développer sur la base d'une guerre et sur la base de ces régimes autoritaires comme ils existent déjà en Serbie et en Croatie.
Ce que tu dis là me fait penser à ce que justement Françoise Zerina, vous nous disiez en novembre dernier. Effectivement, vous attiriez déjà notre attention sur ce phénomène-là. Et entre autres, qu'en tant qu'association Femmes en Noir, vous cherchiez à soutenir des projets qui sont au-dessus des nationalismes. Là aussi, c'est une chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il existe des groupes aujourd'hui en Yougoslavie, de femmes entre autres, qui se battent pour ça, pour continuer à garder cette pluriculture. Et que là, on n'en discute même plus aujourd'hui quand on parle de guerre, effectivement. On appuie même plus ces démarches-là. Alors, je crois qu'il est temps que nous rentrions dans le vif aussi du projet que vous soutenez et que nous parlions à nos auditrices de comment elles peuvent aussi appuyer votre projet. Femmes Remue Ménage donne aujourd'hui la parole à l'association Femmes en Noir et nous recevons Sarah, Françoise et Rina qui, après nous avoir vraiment aidé à faire une réflexion importante sur le conflit de l'ex-Yougoslavie, maintenant vont vous interpeller très directement sur un projet qu'elles ont décidé de soutenir et elles ont bien évidemment besoin de votre soutien pour mener à bien la réalisation de ce projet. Alors Rina, ce projet existe à Zenica, il s'appelle Medica, nous sommes en Bosnie centrale, de quoi s'agit-il plus précisément ?
Alors, nous avons décidé de soutenir ce projet de centre thérapeutique pour femmes et enfants victimes de violences. Après avoir pris passablement de contact, nous avons pris un peu de temps pour nous décider, pour choisir ce projet. Et nous nous sommes rendus compte que, après tout, Zagreb reçoit passablement d'argent. Ensuite, c'est Belgrade. Et finalement, là où c'est le plus difficile d'amener une aide directe aux femmes victimes de violences, et pourtant c'est là qu'elles sont encerclées, c'est bien en Bosnie. Donc, nous étions bien décidés à trouver un projet en Bosnie. Et c'est le cas de ce projet qui s'appelle Medica, qui au départ en effet était dans la ville de Zenica, qui se trouve au centre de la Bosnie-Herzégovine et qui est aussi une ville où justement se documentent les crimes de guerre, ce qui est quand même assez important. Mais maintenant, ça dépasse la ville de Médica même, puisqu'elles ont ouvert une deuxième maison qui se trouve à Visoko. Et ce projet a été reconnu par le gouvernement bosniaque comme un projet modèle, ce qui signifie que dans d'autres villes, des projets similaires pourraient démarrer. Donc l'activité de Médica consiste à donner des traitements ambulatoires pour les femmes qui sont dans des camps de réfugiés. Donc on sait que la grande majorité de la population de ces camps de réfugiés est constituée de femmes et d'enfants et de quelques vieillards. Donc elles vont dans ces camps pour leur accorder des consultations. D'autre part, il y a des femmes qui viennent dans leur centre, donc ambulatoirement, recevoir également des soins. Et enfin, il y a des femmes qui y font un séjour. Un court séjour d'abord à Médica pour des soins médicaux ou psychologiques et par la suite, si nécessaire, un séjour un peu plus long, un séjour de réinsertion, justement dans leur deuxième centre de Zenica. La particularité du centre de Visoko, c'est que dans ce centre, pour la première fois, il y a des femmes qui ont été des ex-assistées du projet qui sont devenues assistantes.
L'autre particularité de ce projet, c'est la raison pour laquelle nous avons justement décidé de le soutenir, c'est qu'il s'adresse indifféremment aux trois communautés, que les femmes soient d'origine croate, serbe ou musulmane. Et rappelons donc que le terme de musulman en Bosnie-Herzégovine ne signifie pas systématiquement une religion, mais donc une nationalité. Donc que ces femmes soient de ces trois origines communautaires, elles sont accueillies de la même manière dans ce centre de Médica.
Une information, comment les femmes arrivent dans ces centres d'accueil thérapeutique? Est-ce que il y a un moyen pour elles de savoir que ces lieux existent et qu'elles peuvent s'y rendre? Comment ça se passe?
Je crois qu'en fait, il y a beaucoup plus de consultations qui se font dans les camps que de femmes qui viennent directement vers le centre, précisément pour la difficulté de déplacement d'une part et la difficulté d'oser se manifester. Mais néanmoins, je crois que le centre maintenant est connu et en effet, des femmes peuvent se sentir plus en sécurité dans ce lieu que de rester là où elles sont.
C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, une des préoccupations au départ était de évidemment fournir un soin, un traitement, un soutien essentiellement aux femmes victimes de viol, mais d'autres violences également. Le souci, au fond, c'était de ne pas focaliser l'attention sur des centres où on pourrait directement identifier les gens comme justement étant victimes de viol. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce projet existe depuis plus d'une année et il est extrêmement bien connu, à la fois en Bosnie et à l'étranger, à tel point d'ailleurs que justement cette première démarche qui consistait pour les femmes qui travaillaient dans les centres à aller dans les camps de réfugiés, eh bien maintenant les femmes, elles viennent d'elles-mêmes en fait dans le centre parce que le centre est très connu. Une autre particularité, c'est que évidemment les patientes de ces centres-là ont, en tout cas au début, toujours été des femmes déplacées parce que c'était en fonction des combats que les femmes, enfin que ces gens-là, remontaient vers le nord, vers la Bosnie centrale et donc bénéficiaient de ces traitements dans ce centre. Actuellement, Médica est en train de s'ouvrir dans une ville qui s'appelle Vares, qui est au nord de Sarajevo. Et la particularité de ce centre-là, c'est que les femmes qui vont consulter dans le centre, ce ne sont plus des femmes déplacées, mais ce sont des femmes du lieu même qui ont été l'objet de violences et de viols au moment, au mois d'octobre, novembre de l'année passée, quand une partie de l'armée croate s'est retirée. Donc maintenant, ce ne sont plus les femmes déplacées, mais des femmes qui ont toujours vécu dans ce lieu-là, qui peuvent directement bénéficier de soins et de traitements.
Une chose encore, le projet, ce centre est animé par des femmes du lieu. Je crois qu'à l'origine, il y a une femme allemande à l'origine de ce projet, ou autrichienne.
Autrichienne, c'est exact. Ouais. Il s'agit d'une gynécologue qui s'appelle la doctoresse Hauser et qui a démarré donc le premier centre, celui de Zenica. Mais l'équipe est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des infirmières, des psychologues, des anesthésistes, il y a même une théologienne. Enfin, il y a vraiment une équipe tout à fait pluridisciplinaire. Et seule la doctoresse Hauser est étrangère.
Et alors, je suppose que l'association Femmes en Noir de Genève n'est pas la seule à se mobiliser pour soutenir ce projet, parce que j'ai sous les yeux un petit décompte d'argent. C'est un budget malgré tout important. Hein. Je crois que vous l'avez traduit en francs suisses. Ce serait de l'ordre de 680 000 francs suisses pour faire vivre l'allocation des maisons, les salaires, la nourriture, etc. Enfin, on pourrait faire la liste des choses élémentaires contenues dans ce budget en plus, hein, cela dit.
C'est un budget d'autant plus lourd que, d'une part, l'aide, pour acheminer l'aide, c'est déjà un gros problème. C'est-à-dire que au départ, l'aide était acheminée par l'intermédiaire d'autres convois, d'autres organisations. Elles se sont rendues compte que ça posait énormément de problèmes. Elles ont été obligées d'organiser leur propre convoi pour faire acheminer les aides. Ça, c'est déjà une des premières raisons pour lesquelles le budget est très élevé. Et l'autre, c'est qu'il faut acheter la nourriture sur place au prix du marché noir. Ce qui signifie des sommes absolument faramineuses. Et heureusement, il y a de nombreuses organisations qui soutiennent ce projet en Allemagne, en Suisse, dans différents pays européens. Et c'est uniquement de cette façon que nous pouvons espérer arriver au montant nécessaire pour faire vivre ces différents centres.
Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au fond, on se rend bien compte que il y a presque des affaires miroirs, c'est-à-dire qu'à la fois à l'intérieur de la Bosnie, ces centres essayent de développer des réseaux, c'est-à-dire justement à la fois d'ouvrir leurs propres centres, mais aussi de travailler avec d'autres hôpitaux, comme par exemple à Tuzla ou dans des régions où ils n'ont pas encore leurs propres centres, mais où on commence à fonctionner en réseau pour gentiment mettre sur place des pratiques identiques, vu qu'elles ont fait leurs preuves. Et on se rend compte qu'à l'étranger, pour financer ce projet, il y a aussi un réseau qui se met sur place. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des groupes, des associations, des autorités politiques qui soutiennent ce projet-là. Et d'ailleurs, il est peut-être intéressant de noter que la doctoresse Hauser, qui justement s'est beaucoup, beaucoup investie dans ce projet, a été désignée à la fin de l'année comme femme de l'année par une télévision allemande. Et que grâce à cette reconnaissance, au fond, d'une femme qui avait quand même vécu un an dans cette ville de Zenica, dans des conditions extrêmement difficiles, eh bien, cette publicité-là a permis de récolter 600 000 francs supplémentaires. Et c'est vrai que c'est des chiffres impressionnants, mais comme le disait Rina tout à l'heure, actuellement, ils dépensent à peu près 20 000 francs par mois pour acheter de la nourriture pour les patientes au prix du marché noir. Et ça, c'est peut-être une des conséquences de la guerre dont on ne prend pas suffisamment conscience. C'est dramatique quand on doit dépenser des fortunes parce que simplement l'acheminement ne se fait pas, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a tout un trafic qui s'est mis en place dans ces régions de guerre. Et que finalement, quand on parle des seigneurs de la guerre, c'est aussi comme ça que ça se manifeste. C'est-à-dire que pour la population, la situation est excessivement difficile. Et d'ailleurs, nous venons de recevoir des informations de Zenica, justement, où on nous dit qu'il y a maintenant, tous les jours, des vieillards qui meurent de faim, qui meurent de froid.
Alors, ce que tu dis, Sarah, vous êtes en contact donc très précis avec ce centre, malgré, je suppose, d'énormes difficultés à faire vivre régulièrement les contacts, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, les personnes, les femmes qui vont soutenir avec vous ce projet, elles savent très bien que vous allez les informer, je suppose, régulièrement de ce qui se passe et maintenir vivant le contact avec les lieux où se développent ces centres thérapeutiques.
Le contact est le plus souvent indirect pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que Zenica, par exemple, est en siège depuis avril 1993, mais néanmoins, c'est un contact qui est vivant et nous avons une correspondance régulière et une petite revue est publiée régulièrement avec des nouvelles que nous serons en mesure de transmettre à toutes les femmes qui soutiendront cette activité.
Alors, très concrètement, Rina, qu'est-ce qu'il faut que nos auditrices fassent pour soutenir le projet Medica?
Je crois que le plus important, c'est de retenir que nous sommes tous les premiers jeudis de chaque mois sur la place de la Fusterie entre 6h15 et 7h moins le quart, ou de retenir notre adresse, Femmes en Noir, COFI, 2 rue de la Tannerie, 1227 Carouge, pour obtenir notre dépliant.
Et je crois qu'il faut donner aussi votre compte de chèque postal. Effectivement, je vois des mains et des doigts qui se frottent en signe de... Il y a aussi l'argent qui est important et vous pouvez déjà maintenant, avant même d'écrire à Femmes en Noir, décider que vous allez verser de l'argent sur le compte de chèque postal de Femmes en Noir. Le compte de chèque postal, c'est
le 12-25-272-3.
Il faut peut-être répéter, allez vite chercher vos crayons. On vous donne une minute et demie pour aller chercher vos crayons.
Le compte de chèque postal.
ça y est, vous avez vos papiers, chères auditrices, chers auditeurs. Rina vous répète le compte de chèque postal.
Femme en noir, Genève, compte de chèque postal 12-25-272-3. Merci pour votre soutien.
Et merci à vous toutes les trois d'être venues. Donc nous vous le rappelons, nous finissons cette émission. Il est tard le dimanche soir, mais nous ne savons pas encore ce que l'ultimatum des forces européennes va donner. Toute notre discussion ne tient pas compte du décalage qu'il y aura entre le moment où nous nous sommes rencontrés pour vous parler et celui où vous nous entendrez. Si jamais des choses se passent, eh bien, vous nous pardonnerez et puis on reconvoquera nos amis de l'association Femmes en Noir pour faire d'autres réflexions à propos de la situation de l'ex-Yougoslavie et surtout de la situation des femmes dans ce pays et de comment éventuellement influencer le cours des choses dans cette région du monde. Merci Rina, merci Sarah, merci Françoise.
Merci.
Pour finir notre émission, je vous propose un registre musical un petit peu différent. Il est difficile de choisir une musique qui colle comme ça à notre discussion lorsqu'on parle d'un sujet grave comme celui d'un conflit. Alors j'avais délibérément choisi de vous proposer un piano, celui d'un pianiste brésilien, Ernesto Nazareth, qui interprétait la musique de Arthur Moreiro Lima, Pas de femme aujourd'hui dans notre musique. Mais ce n'est que partie remise puisque tout de suite c'est la chanson de femme que vous entendez pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble.
We'll be right back.
C'est les Shakespeare Sisters que vous entendez pour les quelques 3 minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, ce sera un voyage à travers de la Suisse romande en compagnie de Noémie Lapsaison qui est partie en tournée avec sa compagnie Vertical Dance. Elle a 50 et quelques années, danseuse très renommée et pour la première fois depuis qu'elle est en Suisse, elle s'offre une vraie tournée et elle avait envie de nous en parler. Alors c'est ça, nous nous retrouverons la semaine prochaine dans Onde Femme Remue Ménage, Radio Zone 93.8. I came across your image. You looked at me with that sweet smile and said something they won't let me repeat. We hurt the ones we love the most. It's a subtle form of compliment. I don't care if you talk about me. You hate with an X, then shoot your bow and arrow.
Shoot your bow and arrow.
Do your worst, get it all off your chest. I'll hold my breath and swallow.
Uh-oh.
We hurt the ones we love the most. It's a subtle form of discipline. I don't care if you talk about me.
Yeah.